L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment que vous attendez tous, l'invité du 12-13, le moment d'échange privilégié avec les acteurs du territoire, ceux qui font vivre notre région, c'est-à-dire vous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame le maire de Souston, Frédérique Charpenel, première vice-présidente en charge du développement territorial, des mobilités et du numérique, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, déléguée à l'international. Nous recevons aussi Michel Castetz, adjoint urbanisme et aménagement. Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien et merci beaucoup de nous avoir invités.
Bonjour, ça va très bien, merci.
Très bien, nous allons passer une petite heure ensemble et découvrir votre vision et vos projets. On revient très vite. Nous voilà de retour dans notre studio avec nos invités, Madame le maire Frédérique Charpenel et Michel Castetz. Nous avons des choses à dire parce que voilà, on va parler un petit peu de Souston et de ce qui lui est arrivé et des projets que vous avez. Mais est-ce que en préambule, si ça vous embête pas, vous voulez bien parler un petit peu de vous, vous présenter votre historique. J'aime bien qu'on laisse les gens un petit peu qu'on reçoit.
Bah écoutez, avec plaisir. Donc, écoutez, j'ai 55 ans et donc j'ai été c'est mon parcours plutôt dans la vie locale. Moi, j'ai été élue à Souston en premier en 2008 avec Jean-Yves Montus qui m'avait confié la culture pour développer un projet culturel sous Souston. Et puis, je suis tombée dans la marmite. Tous les sujets m'ont intéressée. Mmh. Il a souhaité qu'après, je prenne la fonction d'adjointe aux affaires sociales, ce qui m'a permis aussi d'ouvrir l'ensemble des champs des compétences et des communes, tout en étant en rentrant à la communauté de communes. Donc ça s'est fait petit à petit, mais avec beaucoup de conviction et beaucoup d'appétence, en fait, mais qui n'était pas prévu dans ma vie quand j'avais 30 ans. Voilà. Ouais. Et puis maire, fin 2016. Mmh. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Castetz, peut-être ?
Eh bien, pour ma part, j'ai 64 ans bientôt. Je suis élu pour la première fois donc depuis 2020, retraité. Et,
un faux retraité, du coup.
Oui, bien écoute, retraité qui travaille.
et en fait, j'ai quitté Souston pour réaliser ma carrière professionnelle, comme beaucoup de monde, pendant 40 ans, mais en y revenant le plus souvent possible, parce que quand on est soustonnais, on y revient. Je suis revenu à la retraite et à peine revenu, Madame le maire m'a sollicité et j'ai répondu. Et je ne le regrette pas.
Très bien, merci beaucoup. Donc, on va peut-être parler un petit peu de Souston. Comment va Souston ? J'ai envie de poser la question. Comment va Souston ?
Bah écoutez, ce matin, j'étais au marché, tout le monde a l'air heureux. Donc, Souston va bien.
Très bien. On va aborder les projets municipaux un petit peu, parce que voilà, Souston, c'est une ville qui est en marche, hein, il y a des projets, il y a des choses qui se font, qui se concrétisent. On ne peut pas ne pas parler du stade Rémi Goalard, je crois, parce que bon, on a reçu l'Ice Rugby, ils nous ont bien dit qu'ils étaient très contents, il leur tardait que ce soit fini, c'est un endroit qui était particulier pour eux.
Alors, je vais laisser Michel, parce que c'est lui qui fait toutes les réunions de chantier avec notre adjoint au sport. Donc, il connaît bien le dossier.
Et oui, avec Patrick Bedat, on suit ça de près, parce que c'est quand même un chantier important de plus de 3 millions d'euros et qu'il était nécessaire de réaliser. Alors, d'une part, le stade Rémi Goalard date de 1938. Oui. Et donc, ces installations, notamment les vestiaires, ne répondaient plus aux normes de la Fédération française de rugby,
oui.
Ne répondaient plus non plus à la nouvelle dimension que prend le rugby avec une forte montée du rugby féminin. Et donc, il était vraiment nécessaire. Et là, au-delà de l'agrandissement des vestiaires, il y a derrière aussi un aspect énergétique avec la rénovation de toute la partie chauffage et production d'eau sanitaire. Et également une partie confort pour l'accueil des spectateurs avec le remplacement des vieux gradins bois par des sièges un petit peu plus confortables. Et tout ça, bien sûr, en respectant au maximum l'architecture qui est quand même très très particulière. Bien sûr, un stade comme celui de Rémy Goualard, en termes d'architecture, on ne le retrouve nulle part.
Ah, vous parliez de la rénovation énergétique, mais pour un endroit de ce type, là, quel genre de chauffage on utilise comme méthode pour chauffer un endroit comme ça, c'est quoi qu'on utilise ?
Alors, il y aura des pompes à chaleur.
Pompes à chaleur, d'accord. Ouais. Ouais. Bon, c'est ce qui est le plus.
C'est actuellement.
Le meilleur rendement en ce moment, je crois.
Voilà, actuellement, c'est ce qui a le meilleur rendement. Et pour la surface à chauffer et ce type de. Notamment la partie administrative, c'est effectivement le plus économique aujourd'hui.
Alors, d'après ce que m'avaient dit vos collègues de l'AS Rugby, c'était aussi un des challenges, c'était de pouvoir rendre accessible à des équipes de l'extérieur d'un certain niveau. Le fait de coller à une certaine norme, ça permettait aussi de recevoir des gens.
Oui, si vous voulez, c'est ça aussi par rapport à la réglementation de la Fédération française de rugby, c'est que le stade tel qu'il était n'était pas adapté pour recevoir des équipes de niveau supérieur, et voire même effectivement la SS Rugby peut réaliser ses objectifs et monter notamment en Fédérale 1.
C'est ce qu'on espère.
Et c'est ce qu'on espère tous. Et il était donc nécessaire d'adapter les vestiaires et les installations d'une manière générale.
Bien sûr.
Et si je peux compléter, on est aussi centre de préparation aux Jeux Olympiques. Oui. On a été centre de préparation aux Jeux Olympiques et notamment sur le rugby à 7. Et quand on a reçu le rugby à 7 néo-zélandais, donc d'avoir aussi un stade qui permet, quand on a des équipes, de pouvoir avoir des entraînements un peu plus privés, mais aussi des entraînements couplés avec d'autres équipes qui sont aussi sur le territoire, c'est aussi ce que va permettre cette rénovation du stade Rémy Goualard. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est très très attendu, c'est le fait de rendre accessibles les tribunes aux personnes en situation de handicap. Et la situation de handicap, c'est aussi une personne qui a une canne, etc. Donc avec des places spécifiques pour vraiment les personnes avec un handicap un peu plus lourd, mais aussi avec un ascenseur qui va permettre que tout le monde puisse continuer à aller au stade le dimanche. en tout, avec beaucoup plus de facilité. Et puis il y a l'aspect buvette aussi, tu l'as oublié, Michel, quasiment sur les toits, donc voilà.
La buvette.
C'est aussi, c'est important.
Pour les associations et les clubs sportifs, ça reste une source de revenus qui est non négligeable dans le fonctionnement.
Oui, et puis il y a aussi beaucoup de convivialité.
Et je voulais dire également la convivialité.
On est dans le sud-ouest.
Que ça apporte.
Un petit peu quand même, oui. Bien entendu. On peut parler aussi les arènes. On a parlé des arènes tout à l'heure, antenne. Il y a un gros chantier, si je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut employer.
Alors ça, c'est le chantier qu'on travaille depuis 2 ans au moins.
Oui.
Le chantier du mandat, parce qu'on a plus d'un hectare, je pense, autocontrôle, c'est grand, la place des arènes, donc ça va nous occuper pendant 2 ans. Et puis, l'objectif, il y a plusieurs objectifs, il y a un aspect aussi patrimonial de pouvoir embellir cette place, il y a un aspect pratique, c'est de garder aussi un accès aux voitures avec des parkings, puisqu'on n'est pas sans savoir que les arènes, elles vivent beaucoup l'été, et on a aussi toute l'année la médiathèque qui vit, on a aussi la salle Roger Hanna sur notre salle de spectacle, donc il faut qu'on garde cet accès-là. Il y a aussi l'aspect paysager, donc de pouvoir travailler sur la plantation d'arbres nouveaux, et puis cette halle de 1000 m² qui va être installée, qui va nous permettre l'hiver de recevoir un peu mieux. Aujourd'hui, il faisait beau au marché, mais quand on est au mois de décembre, janvier et qu'il pleut, c'est compliqué pour les marchands du marché de venir. Donc là, ils seront vraiment sur une surface couverte et on est en train de travailler avec eux sur le futur réaménagement. Du coup, on va repenser le marché et qui va nous permettre aussi, parce que très souvent, à partir du mois d'avril, on monte des chapiteaux sur cette place. C'est pas très joli. Donc là, on aura une halle qui va nous permettre continuer à y organiser des moments conviviaux comme on les aime à Souston.
D'accord. Alors, c'est quoi comme type de halle ? Est-ce que c'est les halles comme on trouve dans les grandes villes, Dax, tout ça, avec la partie où on peut manger sur place, acheter, ou c'est des halles plus axées sur un marché un peu plus traditionnel ?
Non, ce sera des halles axées sur le marché traditionnel. Elles ne seront pas fermées. Elles seront ouvertes sur l'extérieur et elles auront vocation à accueillir les camelots que l'on a aujourd'hui sur le marché hebdomadaire du lundi à Soustan.
Très bien.
Par contre, avec une précision, c'est qu'on va pouvoir quand même les fermer par un système de toile qui va nous permettre d'avoir aussi toute l'année, on va pouvoir remplacer nos chapiteaux par ce système-là qui va être quand même beaucoup plus... plus beau.
Oui, en cas d'intempéries, en cas de voilà. vent et de
donc
pluie
on est
forte.
Ouais, mais on est, je crois qu'on a trouvé la bonne équipe d'architectes.
D'accord.
Donc, avec qui on travaille aussi main dans la main.
Oui, et en fait, ce projet d'aménagement, quand on parle du projet d'aménagement des arènes, je dirais qu'il comporte trois sous-projets. Il y a effectivement la halle, il y a effectivement l'aménagement de plus d'un hectare de ce qui est aujourd'hui l'aire de stationnement. Mmh. Et il y a également l'utilisation de 300 mètres carrés environ de dessous des gradins, qui aujourd'hui est un espace qui n'est pas utilisé, que nous allons améliorer, fermer, et pour créer là un local billetterie pour le comité des fêtes.
D'accord.
Une partie buvette. Mmh. Et également une partie pour un commerce.
Très bien. Voilà, nous voilà de retour. C'était Loli, étude pour Cristal. Alors, il y a une raison pour laquelle on a écouté ce morceau, parce que l'instrument de musique que vous avez entendu, il y a des gens qui ne connaissent pas, on appelle ça le cristal bâché. Et il y a une connexion entre la ville de Soustan et le cristal bâché. Et comme Madame le maire est musicienne, je me suis dit qu'elle avait sûrement des infos à ce sujet.
Alors, deux infos. je l'ai vu comme vous au CMR à Pôle Sud.
Oui.
Je crois qu'on a la chance de les avoir et puis qu'on est des personnes qui savent en jouer et qui permettent aussi à d'autres de venir découvrir, comme je crois vous l'avez découvert.
Oui.
Et puis, en effet, c'était deux frères soustonnais qui ont créé ce cristal bâché.
Voilà.
Et c'est vrai que ce son est un son très, très particulier et très beau et qui vous emporte bien loin très vite.
Tout à fait. Bien, alors maintenant on va pouvoir parler d'autres sujets, moins poétiques, mais quand même, enfin, on voulait parler des... Là on a ce joli mot, quand on en a parlé hors antenne, le chaussidou. Voilà, c'est un peu la star du dispositif.
Ah, c'est notre star en ce moment.
Oui, c'est vrai, c'est on dirait le nom d'un Pokémon, le chaussidou, je sais pas.
Je joue pas au Pokémon.
Moi non plus.
Bon, je vais débuter, Michel prendra peut-être le relais.
Allez.
Bon, on a souhaité, ça fait deux ans qu'on travaille, et puis on a travaillé avec les Soustonnais sur la manière dont on peut circuler ensemble de manière apaisée à Souston, qu'on soit automobiliste, cycliste ou piéton.
Mmh.
Donc dans tous nos aménagements, on travaille à tout ça. J'en veux pour preuve le dernier chantier qu'on a fait sur l'avenue du Maréchal de Lattes de Tassigny, où on a pu améliorer, embellir cette voie pénétrante de Soustan, mais on y a aussi mis la place du vélo, des piétons, surtout en créant des larges trottoirs. Donc vous voyez, la marchabilité, on parle beaucoup de marchabilité, de cyclabilité d'une petite ville même comme la nôtre. Et puis donc, quand on a travaillé avec un consultant, puis avec les Soustonnais, qui étaient certains cyclistes, d'autres pas, sur un schéma cyclable, est vite venu sur le devant de la scène, j'ai envie de le dire, la vitesse. Et c'est vrai que moi, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de courriers de Soustonnais qui me disent ça roule vite, ça roule vite, nos enfants sont pas en sécurité quand ils veulent venir partir à l'école en vélo, et puis même quand on marche et même quand on sort de chez soi. Donc on s'est dit que la ville à 30 pouvait être aussi possible à Soustan, alors pas sur toutes les voies, mais donc on est passé à voie 30. Et puis dans les outils qu'on voit un peu partout, il y en avait, vous l'avez parlé tout à l'heure en Horten, du Marais d'Orx, c'était aussi à Bénesse-Marraine. Il y a ce fameux chaussidou. Alors ce chaussidou, c'est quoi? C'est une voie partagée avec les vélos, où quand où le vélo, sa voie est bien marquée, où il peut prendre sa place sur la route, et puis vous roulez, moi j'ai envie de dire, alors évidemment, dans le concept, vous roulez au milieu s'il n'y a personne, c'est vrai que c'est un peu déroutant. À 30, c'est un peu moins déroutant. Si vous êtes à 50, c'est sûr que c'est très dangereux. Mais à 30, et puis bon, si vous le roulez à droite, vous n'êtes pas en infraction. Vous roulez à droite. Bon, surtout, ne roulez pas à gauche, mais roulez à droite.
Oui.
Et quand il y a un vélo, le vélo, il a pris sa place. Vous restez derrière. Il n'y a pas de voiture. Vous pouvez le doubler à 30, pas oui. plus. Mmh. Et puis, voilà. Mais en fait, c'est un nouveau marquage qui, je le comprends, est assez déroutant.
Oui, au début.
Mais moi je circule beaucoup sur les chaussidoux qu'il y a aujourd'hui. Et en voiture, hein, je circule. Mmh. Je vois que les gens, ça y est, ils savent prendre un chaussidoux. Mmh. Mais j'avoue que, oui, quand ça arrive dans une ville, ça, c'est un marquage qui est inconnu. Donc,
oui, bien sûr.
Voilà.
Il faut s'y faire. Ouais.
Oui, j'ai confiance.
Il y a une part de pédagogie, en fait, quand on amène...
Oui, alors on a fait... Alors, c'est vrai que les panneaux tels qu'ils ont fait ne sont pas non plus très explicites. On a fait un double page dans le dernier bulletin municipal. Mmh. On a tout expliqué.
Tout à fait.
Mais je crois qu'il faut démystifier ce qu'il y a. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, par exemple, ce week-end, j'ai encore reçu un mail de quelqu'un qui me disait, en tant que cycliste, je pensais pas, enfin, j'y croyais pas trop au fait que je me sens plus en sécurité sur un chaussidoux. Et il me dit vraiment, pour eux, c'est une voie inversée où, en tant que cycliste, ils se sentent pleinement autorisé sur la route, alors que ce qui est bizarre, parce que de toute manière le vélo est fait pour rouler sur la voie,
oui.
Donc et surtout pas sur un trottoir. Mais voilà, donc quand c'est possible, moi je crois que j'ai confiance.
Oui. On en parlait aussi, cette diminution de la vitesse suppose donc une diminution du bruit. Et comme le concept de ville apaisée, c'est ce que je disais, quand c'est apaisé, souvent c'est moins bruyant que quand c'est pas apaisé. Donc que les voitures roulent moins vite, ça fera forcément moins de bruit pour tous les usagers. Et ça, c'est quand même bien.
Oui, et puis bon, alors c'est vrai que c'est pas facile de faire du 30, hein. Avec nos voitures.
Elles ne sont pas faites pour.
On est souvent en seconde. Mais par exemple, quand on descend vraiment l'avenue de Maréchal de la De Tassigny à 30, vous ne sentez plus du tout les plateaux réhausseurs parce que vous ne freinez plus, en fait.
Oui.
Et c'est beaucoup plus doux. Mais j'avoue que comme on savait qu'on allait y passer, moi, je me suis entraînée pendant quelques mois. Mais on réduit beaucoup la vitesse. Alors, ce qui sera bien, c'est qu'on va pouvoir évaluer ce dispositif au niveau des vitesses, parce qu'on a fait des comptages vitesses.
Ah.
On a fait des comptages vitesses avant, et dans un an, on fera des comptages vitesses. Et puis, dans l'idée, c'est de créer des ambassadeurs de la ville apaisée, puisqu'on a souhaité que ça soit quelque chose qui soit... Moi, j'aimais beaucoup. Alors, le concept, c'est ville apaisée. Moi, j'avais envie de parler de ville apaisante aussi.
Oui.
Et puis, on a souhaité le mettre sous une connotation du fait que, on a mis sur nos panneaux « profitons, respirons ». Je trouve que ça va bien à Souston, et donc ralentissons. Donc, c'est pas des injonctions, mais c'est une nouvelle manière de vivre notre ville. Voilà.
Ouais. Oui, et puis moins de voitures qui roulent vite, et moins de pollution aussi. On peut aussi le rajouter, c'est fait partie des
avantages. Oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé.
Moins de pollution,
mais
sans quand même non plus stigmatiser l'utilisateur de la voiture. On est bien dans une idée de partage de l'espace.
Tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est bien de préciser que le but, c'est pas de dire aux automobilistes que c'est les grands méchants et que les gentils, c'est ceux qui sont en vélo.
Oui, et puis dire aussi au vélo qu'il y a un code de la route et que ce code de la route, il s'applique au vélo.
Oui.
Et ça, il faut aussi des fois le redire.
Tout à fait. Ça va être le moment de refaire une autre pause, si vous voulez bien. On va retrouver le flash info local concocté par mon acolyte Nicolas de l'antenne de Dax. Et on se retrouve tout de suite après. C'était Christophe Willem avec « Comme un pantin ». Pour notre part, nous retournons dans notre studio situé à Tosse avec Madame le maire de Souston, Frédéric Charpenel, et Michel Castetz, adjoint urbanisme et aménagement. On parlait tout à l'heure de rénovation énergétique du stade, donc ça fait partie aussi d'une politique de faire un diagnostic énergétique des bâtiments communaux sur la ville, et ça peut réaliser beaucoup d'économies sur le long terme, je suppose.
Ah oui, tout à fait. Effectivement, depuis 2022, nous avons lancé une campagne d'audit de notre patrimoine bâti communal, qui est quand même, on va dire, important. Donc, nous avons décidé de réaliser 3 audits par an, et ceci afin de nous permettre de prioriser Ensuite, les opérations de rénovation que nous avons commencé à lancer et que nous continuerons à lancer dans les années à venir.
Non, alors ça suppose quoi, un peu quand des gens viennent à la maison avec une caméra thermique, voir un petit peu la qualité de l'isolation, en premier lieu, les choix des matériaux, le choix des méthodes de chauffage.
Alors bon, c'est technique et cette technique-là me dépasse un peu, mais nous faisons appel à un cabinet spécialisé,
oui, d'accord,
qui effectivement vient réaliser un diagnostic complet du bâtiment, donc effectivement présence ou pas d'isolation, présence ou pas épaisseur des murs, matériaux utilisés, le moyen de chauffage actuel,
oui,
et qui derrière nous fait des préconisations pour atteindre alors les objectifs d'une part réglementaires, puisqu'on est soumis aussi à ce qu'on appelle le décret tertiaire. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est compliqué.
Bien sûr.
Donc derrière, il nous sort des préconisations que ensuite nous allons arbitrer et réaliser les travaux nécessaires. Mais je dirais qu'au-delà de l'aspect réglementaire à tenir, ce qui est important, bon, certes, et on l'a vécu comme tout un chacun et toutes les collectivités, le coût de l'énergie, on sait tous qu'il a explosé ces derniers temps. Donc, mais au-delà des économies d'énergie que derrière on va réaliser, il y a également ce qu'on recherche, c'est améliorer le confort d'utilisation pour les personnes qui travaillent dans le bâtiment ou qui viennent, les usagers qui viennent en profiter.
Et durant ce mandat, du coup, on a eu cette focalisation aussi dans les rénovations des bâtiments. On a fait l'école maternelle. Donc on est passé, je crois qu'on a fait des gains de plus de 50% de gains énergétiques sur l'ensemble de nos bâtiments. On n'y en a pas parlé, mais on est en train de rénover l'ensemble de notre pôle social. Qui est une vraie passoire énergétique. Et donc cet aspect-là a fait partie intégrante du cahier des charges. Une manière spécifique a été suivie. Mais on peut prioriser, mais en fonction aussi des rénovations qu'on fait sur des grands bâtiments. Donc cette partie-là qui était avant un élément qui faisait partie comme les autres des éléments, des éléments de conception. Aujourd'hui, il y a un focus spécifique sur le volet énergétique. Et on aura d'autres bâtiments comme ça sur lesquels on va pouvoir, dans les années futures, pouvoir intervenir au moment de grandes rénovations. Je parlais dans les années à venir de la rénovation de notre groupe scolaire. C'est des bâtiments qui ont fait leur vie et qui ont été conçus avec les techniques de l'époque. Et aujourd'hui, ces diagnostics énergétiques nous permettent d'avancer et d'être sûr de ce que l'on veut quand on est en phase projet opérationnel.
Tout à fait. Il y avait un sujet que Madame le maire voulait aborder aussi. Elle est un petit peu à propos d'une certaine directive européenne, à propos de la chasse, notamment des oiseaux, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire
un
petit
peu? Non, c'est pas ça. C'est que vous savez que vendredi, on a eu... l'Europe a demandé à l'État... français de se mettre en concordance avec, je crois, je sais plus, la protection des oiseaux.
Sur
la directive sur la chasse à la palombe au filet. Les parlementaires de notre département ont tout de suite réagi et moi aussi je voulais réagir parce que, alors je suis pas une spécialiste, je suis pas chasseur, mais j'ai tout de suite pensé aussi à mon grand-oncle qui était à Sors et qui en effet chasser la palombe. On a tendance à croire que ces personnes-là actionnaient le filet. Je parle au passé parce que malheureusement mon grand-oncle est décédé. Mais il y a du discernement du chasseur et on peut en plus la palombe aujourd'hui, d'après les études qu'on a, n'est pas un oiseau en danger. Et puis les filets, on sait que les filets ont changé au niveau des années. Et moi, je veux réagir parce qu'au-delà de ça, Si vous voulez, moi je le vois, hier j'étais avec les chasseurs qui font des battues de régulation toutes les semaines, qui tous les samedis, les dimanches sont là à faire de la battue de régulation pour pas qu'on ait des sangliers en plein centre-ville, que les chevreuils, on parle de biodiversité, ne saccagent pas l'ensemble de la forêt, etc. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui vient heurter l'histoire familiale des personnes, tout le monde n'est pas chasseur, et surtout vient heurter la tradition rurale, culturelle, traditionnelle. Et on est aujourd'hui en train de créer une fracture sociale dont on ne mesure pas, l'étendue et vraiment le gouffre qui est en train de se créer dans nos territoires ruraux. Et ça, moi, je le sens, on le sent tous les jours. Et si vous allez dans les lycées avec les jeunes, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très fort. L'identité, c'est très bien qu'ils aient cette identité. Mais il ne faut pas que, du coup, on ait ce conflit qui est dit entre des personnes qui ont des bonnes intentions. Moi, on est tous pour la protection des oiseaux et je crois qu'on a beaucoup de choses à faire pour les oiseaux en ne taillant pas nos haies quand c'est la période de nidification, en recréant des haies. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est pas antinomique, mais aujourd'hui, au-delà de, enfin sur la palombe et la palombe au filet, c'est a été l'alouette et moi j'ai aussi eu la chance d'être invitée sur de la chasse à l'alouette. C'est pas de la chasse intensive, la chasse à l'alouette. C'était au filet. Ils savent très bien quand est-ce que s'ils voient des alouettes ou ils voient pas d'alouettes. C'est sûr que si c'était moi qui actionnais le filet, ça serait peut-être pas pareil. mais voilà, on n'est pas, on n'a pas. Enfin, moi j'étais hier encore avec les chasseurs de Souston. On n'a pas affaire à des viandards, quoi. Donc c'est un peu ma colère du jour.
D'accord.
Mais parce qu'on le sent et cette fracture, on a eu les gilets jaunes, etc. Mais vous ne mesurez pas aujourd'hui. On est la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région agricole de France. C'est vraiment un territoire rural. Et ça, l'impression qu'ont les ruraux aujourd'hui, c'est qu'on tue leur identité à travers ces directives qui partent sans doute d'un bon sens. Je ne remets pas. Mais il faut qu'on soit, qu'on ait raison gardée. Voilà.
Très bien, merci pour cette intervention. On parlait de biodiversité, ça me fait penser qu'il y a un atlas de la biodiversité communale.
Oui, voilà, donc c'est pas antinomique. On peut travailler l'atlas de la biodiversité à Souston. On peut faire en sorte qu'on ait de plus en plus d'oiseaux dans nos jardins et puis ne pas focaliser sur des choses sur lesquelles il y a peut-être pas de sujet, mais dont les effets peuvent être, à mon avis, sur la fracture sociale, très, très destructeurs.
Oui, d'autant plus que vous êtes, la maille la plus fine de l'État ou des élus, en tant que
oui,
maire.
Oui, on voit ça, nous, c'est au quotidien qu'on ressent ça. Et c'est compliqué. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit que j'allais aussi écrire au Premier ministre, mais sur ce volet-là. Je ne suis pas une pro de la palombe, je ne suis pas une pro des filets. Je fais confiance à ceux qui le sont, à la Fédération de la chasse qui saura dire les choses. Et puis, il faut que ça se parle entre, par exemple, la Ligue de la protection des oiseaux et les chasseurs doivent se parler. Et je pense que moi, quand je vois les chasseurs ici à Souston, ils sont très, très sensibles à leur environnement. J'étais aussi à l'AG de la pêche hier. Aujourd'hui, on a 1000 cormorans qui sont sur le là aussi, il y a de la régulation à faire, on attend un décret. 1000 cormorans, ça mange chacun 500 grammes de poisson. Donc, parle de biodiversité, il n'y aura plus de poissons dans le lac de Souston. Donc voilà, il y a tous ces équilibres à faire, mais gardons l'équilibre et ne soyons pas... Et moi, je suis une pro-européenne et ça, c'est des choses qui font rejeter l'Europe. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Ça va être le moment de marquer notre dernière pause et on se retrouvera après pour la conclusion de cette émission. À tout de suite, c'est la dernière partie de l'émission. C'est toujours le moment qu'on utilise en général pour en parler un petit peu d'agenda, des choses qui viennent, qui arrivent.
je rigole parce que l'agenda de Souston est toujours très dense.
Et oui.
Parce qu'on aime beaucoup, on adore se réunir mm-hmm. dans les associations et puis autour d'événements conviviaux. Alors, je n'ai pas toujours l'agenda tout en tête, mais je sais que samedi, il y a la soirée choucroute.
Voilà, ah,
donc
la soirée
choucroute.
Donc,
vous me disiez choucroute, pourquoi ? Mais on est, voilà. On a une histoire avec l'Alsace, mm-hmm. Mais on est aussi jumelé avec une ville d'Alsace, le Haut-Rhin, qui s'appelle Uningue. Mm-hmm. Et le comité des fêtes, chaque année, depuis deux ans, je crois, mm-hmm. fait une soirée choucroute. Donc, je ne sais pas en quoi ils vont être tous déguisés cette année, mais c'est toujours des moments...
Tenue bavaroise, peut-être ?
Oui, je crois. Oui. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux.
Vous avez pas
mais
prévu.
Alors, on a ça, puis bientôt, je crois qu'on a le week-end des poètes.
Oui, le printemps des poètes, oui, du 8 au 16 poètes. Mars. Tout à fait, oui.
Donc on a beaucoup de choses, oui.
Il y a aussi Palianitsia, compagnie à la taille, le samedi 8 mars à l'espace culturel Roger Hanin. Je crois que c'est du cirque et de la musique.
Oui, du cirque. Le cirque prend... Enfin, les gens aiment beaucoup voir du cirque à Souston, comme la danse, comme le théâtre. Je disais ça en antenne vendredi dernier, là, où il y avait une belle comédie. Où on était plus de 300. Avec, voilà, donc des moments très sympathiques.
Ouais. Oui, et il y a le 9e Southtown Jazz Festival de Souston.
Ah, ben oui, on est en train de préparer. Je sais que les équipes préparent déjà le 10e, mais il faut que le 9e passe. Non, mais c'est toujours... J'ai rencontré Guillaume Nouveau ce week-end, là, en pleine effervescence. C'est notre directeur artistique et batteur là, qui va peut-être encore recevoir un prix national. Là, il est dans les finalistes, donc il ne sait pas s'il va recevoir le prix encore, mais chaque année, il reçoit un prix. Donc, je ne doute pas, mais encore une belle programmation qu'on fait ensemble sur le jazz, plutôt jazz traditionnel. Et puis, c'est un moment qui a bien pris. C'est vraiment un festival qui a bien pris. Puis, comme beaucoup de choses, vous parliez tout à l'heure du festival d'opéra aussi. C'est vraiment, moi, ce que j'aime dans les festivals qui s'ancrent ici à Souston, c'est qu'ils sont portés par des personnes du cru.
C'est ça.
C'est comme ça qu'on arrive à fédérer et qu'on arrive à installer et à ancrer une manifestation. Donc, et puis, il y a autre chose. Puis, on va rentrer là très vite. Aujourd'hui, on a un temps printanier. On va vite rentrer dans la saison des festivités à Souston.
C'est ça.
Qui vont débuter avec la fête du printemps le 5 et le 6. Donc, comme je fais partie de l'harmonie, si vous me permettez.
Oui, bien sûr, bien sûr.
D'aussi d'informer les Soustonnaises et Soustonnais que comme... Il y a beaucoup de frustrés qui n'arrivent pas à tous avoir des billets. Nous allons jouer deux fois.
Très bien.
Voilà, le 12 avril, l'après-midi et le soir. Donc, je ne sais pas si la billetterie est ouverte, parce qu'on l'ouvre pas au dernier moment, mais presque. Mais voilà, avec encore un beau concert, j'espère.
Oui.
Et moi, sans doute du sport, hein ? Sans doute, Michel, dis-moi.
Et alors, ce n'était pas de sport dont j'allais parler, mais j'allais quelque part rassurer les Soustonnais en disant que les fêtes patronales, là, au mois d'août, du 5-7, comme ça,
7 au 10.
Se tiendront bien,
d'accord.
Sur le site de la place des Arènes.
D'accord.
Ah, mais oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions.
Ah oui.
Oui, bah non, d'accord. On a tout prévu.
Ok, donc le rendez-vous est donné.
Tout à fait.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Ça va être le moment de se quitter. Je vous remercie beaucoup, Madame Charpenel et Monsieur Castetz, de votre venue. Ça nous a fait plaisir de nous avoir dans nos studios. Notre émission arrive à sa conclusion. Nous recevons demain l'établi, le Fab Lab de Souston. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Fab Lab, vous allez tout comprendre. Je vous laisse maintenant en musique. À très bientôt sur Souvenir FM. Adi Schatz.
Adi Schatz.
À 12-13, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, sur Souvenir FM.